Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaine nouvelle ?
Nouvelle vilaine.
Vilaine nouvelle.
Nouvelle vilaine. Nouvelle vilaine. Vilaine nouvelle. Nouvelle vilaine. Histoire. Eh bien, bonjour. Ah, aujourd'hui, ça va être une vilaine histoire particulière. Une vilaine histoire de Jean Vilain. Je veux dire par là que je veux vous parler de quelqu'un qui me tient terriblement à cœur. C'était mon ami et mon maître.
J'ai essayé à 100 reprises de vous parler de mon ami. Mais comment parler d'une église dont l'accès vous est interdit? Mais ce soir, je sens sous ma plume un fourmillement familier. Quand le soleil du cœur s'allume, l'éteindre serait un péché. C'est mon ami et c'est mon maître. C'est mon maître et c'est mon ami. Dès que je l'ai vu apparaître, j'ai tout de suite su que c'était lui. Lui qui allait m'apprendre à être ce que modestement je suis. Comme une chèvre vendéenne de ses secrets, il est jaloux. Et même s'il a de la peine, il ne vous parle que de vous. Il conserve de son bel âge un sourire au fond de ses yeux. Et je me dis que c'est dommage de vous le décrire sans cheveux. C'est mon ami et c'est mon maître. Je le vous vois encore aujourd'hui. Et quand j'ai mal dedans mon être, je passe une heure ou deux chez lui. L'air qu'on respire à sa fenêtre, c'est l'air le plus pur de Paris. Il porte en lui dur comme une arme, un orgueil au-delà de tout. Au point que même au bord des larmes, il vous fera croire qu'il s'en fout. C'est lui qui a fortifié mon âme. Et si je suis encore en vie, je ne le dois pas à cette femme qui me rend heureux aujourd'hui, mais à mon ami, à mon maître. Et dans la chanson que voici, je sais qu'il va se reconnaître. Mais puisque nous sommes entre amis, ce soir, je peux bien me permettre de vous le présenter aussi.
Eh oui, je vais vous le présenter aussi. Moi, mon maître, et qui est devenu mon ami, s'appelait Laurent Terzieff. Laurent Terzieff, la première fois que je l'ai vu, c'était en 1963. Et c'était complètement par hasard, parce que j'avais jamais mis les pieds dans un théâtre. Si, au Châtelet, puisque ma mère était passionnée d'opérette, j'ai vu Luis Mariano pendant toute mon enfance. Mais au théâtre, le vrai théâtre, celui où les comédiens... j'avais jamais été. Et puis, un jour de 1963, j'étais à l'École nationale de chimie de Paris et j'avais un copain qui, lui, était passionné de théâtre et qui vient me trouver en me disant j'ai deux places pour le théâtre ce soir, je devais y aller avec ma copine, et puis elle est malade, si tu veux, je t'emmène avec moi. J'ai dit bon, d'accord, je l'aimais bien ce copain, moi. Et je me suis retrouvé dans un petit théâtre qui a hélas aujourd'hui disparu, qui s'appelait le Théâtre de Lutèce. Et là, Laurent Terzieff et Pascal de Boisson jouaient deux pièces d'un Américain qui s'appelait Murray Sisgal. Ces deux pièces étaient Les Dactylos et Le Tigre. C'était deux pièces en un acte. Et pour une première rencontre avec le théâtre, ça a été une sacrée rencontre. Je dois dire que je m'en suis pris plein la gueule, comme on dit, quoi. Je suis sorti de là complètement époustouflé. Ça a été une révélation, un choc, je sais pas comment vous expliquer. Mais bon, je suis pas par là pour vous parler de moi, je suis là pour... Quoique je vais en parler pas mal en cours de route, puisque c'est l'histoire d'une rencontre. Mais je suis là pour vous parler de Laurent Terzieff. Laurent Terzieff est né le 27 juin 1935 à Toulouse, dans un milieu artistique. Sa mère était peintre, son père était sculpteur. Ouais. Et un jour, il a rencontré, aux alentours de ses 14-15 ans, je crois, Roger Blin, qui était un monstre... du théâtre, un monstre pas très connu du grand public, mais qui était un de ces ascèses du théâtre, un perfectionniste, un vétéré, un personnage assez curieux, un perfectionniste. C'est assez racontable, renseignez-vous, vous verrez, c'est un personnage très curieux. Toujours est-il que Roger Blin a poussé Laurent à faire du théâtre et que, écoutez
et alors,
Laurent.
Le théâtre qui vous est apparu comme un espace de, oui, de salut, en tout cas un espace qui pouvait accueillir ou canaliser ce désespoir ou ce désarroi de l'adolescent, vous l'avez découvert très 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 jeune, vous l'avez découvert tout seul ou...
Non, les choses étaient là, comme ça, je n'ai rien découvert.
Vous racontez dans les entretiens avec Claude Mauriac que c'était un soir à la Gaîté Montparnasse.
Ah oui, oui.
Que c'était devant le rideau fermé avant le début de la représentation. Une représentation, d'ailleurs, je crois que c'était Strindberg, c'était la sonate
des spectres, oui.
Mise en scène par Roger Blin.
Oui, c'était juste avant que le rideau ne se lève. Vous savez, à l'époque, ça rougeoyait un petit peu sur le rideau rouge, comme ça. Et il y avait le côté au théâtre, ça commence, comme dit Claudel, par la voix de Lesquiel Bernon, dans la vie, rien ne commence, rien ne finit. Alors qu'au théâtre, ça commence. Et les trois coups sont là ou étaient là à l'époque pour vous dire que ça commençait. Et c'est à ce moment-là, oui, que j'ai senti une voix en moi qui me disait « c'est ça que je dois faire ».
Et Roger Blin, vous l'avez rencontré, vous aviez, je crois, à peu près 15 ans.
Au moins que ça, moins que ça. Oui. C'est-à-dire que je crois que j'ai assisté à la scène des spectres avant l'âge de 15 ans. Ma sœur aînée était danseuse et elle avait une amie, danseuse aussi, comme elle, qui pour gagner un peu sa vie, était caissière à la Gaîté Montparnasse, où je suis assez actuellement. Et donc, j'ai pu voir la sonate des spectres grâce à elle. Et ça a été vraiment une révélation pour moi, parce que j'ai vu qu'il y avait une chose qui était possible avec le théâtre, avec un certain théâtre en tout cas, et qui était pour moi fondamental, c'est-à-dire la rencontre des choses visibles et des choses invisibles sur le même plateau, ce qui correspond pour moi un peu à la poésie. Et pour moi, la poésie, c'est une ouverture vers cette face invisible du monde qui existe en dehors de nos représentations et qui nous relie à tout et à tous, qui réconcilie toutes choses, même les contraires, et voilà, qui nous visite à l'intérieur de nous-mêmes en même temps qu'elle nous fait visiter les autres. C'est ça que j'ai trouvé dans la sonate des spectres mise en scène par Roger Blin à l'époque. Pourquoi le théâtre plutôt que le cinéma? Parce que là, les fantasmes, les rêves de la nuit, le rêve éveillé de nos journées, tout cela est incarné de façon concrète par la présence physique des acteurs sur le plateau. Voilà.
Laurent Terzieff, Roger Blin, à ce moment-là, vous a offert un livre. C'était, vous écriviez, je crois, des petits textes.
Oui, j'ai connu Roger Blin peu de temps après, d'ailleurs, par une amie qui habitait dans la même maison que moi, Marguerite Bouguet, et elle avait lu les poèmes, parce que j'écrivais des poèmes, comme tous les enfants, tous les adolescents, et elle les avait montrés à Roger Blin, qui avait désiré me voir. Il m'avait dit qu'il trouvait ça intéressant, assez pur. Voilà. C'est comme ça que je l'ai connu. Oui.
Et il vous a encouragé à continuer à écrire ou...
Oui, plutôt à l'époque, oui. Il m'a encouragé. C'est moi qui me suis découragé.
Et c'est Roger Blin, je disais tout à l'heure, qui vous a offert un livre.
C'est longtemps après, quand on s'est vraiment connu. Il m'avait parlé des cahiers de Matt Richbridge, qui était pour moi un des grands livres de ce siècle, sûrement. C'est une approche visionnaire du monde, de l'existence, qui ne s'enferme sous aucun concept philosophique, il n'y a aucun scientisme de la pensée là-dedans, il n'y a aucune marche à suivre. C'est une chose que Rilke a écrit à une période très difficile de sa vie, lui aussi, il ne trouvait pas d'issue. Il avait demandé à cette époque-là à Lou Salomé de faire une analyse. Lou était à l'époque l'élève brillante de Freud, et Lou lui avait dit « Oh non, surtout pas, ne faites pas ça, il faut écrire ». Et il avait écrit ça, dans un but presque
thérapeutique,
oui, thérapeutique, tout à fait. Il en est sorti malheureusement encore plus déprimé qu'avant, mais il avait pondu un chef-d'œuvre.
Et la deuxième fois que j'ai rencontré Laurent, là, je commençais à faire du théâtre. Pendant 2 ans, j'ai fait à moitié de la chimie, à moitié du théâtre. Et puis, j'ai eu l'occasion de sauter le pas, comme on dit. Et là, j'ai été trouver Laurent, qui à l'époque, ça devait être en 67 ou 68, je ne sais plus. Ce que je sais, c'est qu'il jouait les Chinois de Chisgal encore, et que je lui avais demandé de faire un stage chez lui, un stage d'assistant metteur en scène ou de régisseur. Et il m'avait dit qu'il ne pouvait pas, mais il m'avait recommandé à Sacha Pitiev, qui lui-même ne pouvait pas, mais qui lui m'a recommandé à son ex-assistant, Dominique Chenet, qui venait d'être nommé directeur du théâtre de Suresnes, et j'ai donc fait mon stage au théâtre de Suresnes. Mais Laurent, avant de le voir au théâtre, je l'avais vu au cinéma. Je l'avais vu au cinéma, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça, dans le film qui l'a rendu célèbre, le film de Marcel Carnet, Les Tricheurs. Du coup, Laurent aurait pu devenir un immense comédien de cinéma, quoique il n'a pas rien fait au cinéma. Il a quand même tourné la bagatelle de 63 films, et avec les plus grands réalisateurs, entre autres Pasolini, Claude Autant-Lara, Buñuel, Godard, Rossellini, Clouzot, enfin 3 fois rien. Mais Mais il n'est pas devenu un Belmondo ou un Delon. Lui, il est resté fidèle au théâtre. Néanmoins, il aimait le cinéma. Mais écoutons-le en parler.
Et alors, le cinéma, c'est à cette époque que ça s'est dessiné pour vous ?
C'était un peu avant. C'est Michel Vitol qui m'a fait jouer d'abord dans des grands théâtres, dans Mon cœur dans les Highlands, et puis une pièce de Saroyan, et puis par la suite j'ai joué avec Marcel Tassancourt, j'avais joué une vingtaine de pièces avant de faire du cinéma, comme c'était des pièces qui ne duraient pas longtemps, n'est-ce pas ? Ça s'est passé sur un si court temps, mais enfin, ma première pièce, j'avais 17 ans, puis je crois que j'ai fait mon film, Les Tricheurs de Carnet, à 21 ans, je crois, quelque chose comme ça.
Oui. Alors ça s'est passé comment, cette rencontre avec Carnet ?
Ah, tout simplement, j'avais fait une télévision. À l'époque, on faisait des télévisions en direct, vous savez, c'était très éprouvant. Il fallait justement une très bonne mémoire. On était contactés 8 jours avant. J'avais fait un procès, l'affaire Weidmann. Et j'incarnais le personnage de Weidmann à son procès. Et c'était les débuts de la télévision et ça avait beaucoup marqué comme émission. Et je crois que Carnet l'avait remarqué là. Voilà. Et après, quand il a fait ce film, il m'a fait faire des essais.
Et c'était un travail tout à fait sûrement différent que le théâtre pour vous.
Oh, ça m'a beaucoup appris le cinéma par rapport au théâtre. Ça m'a appris à me concentrer plus facilement parce que c'est vrai qu'il y a sur un plateau de cinéma, il règne une déperdition de concentration, une puissance de dispersion assez rare et il faut ramasser ses énergies et il faut être très concentré justement. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec Carnet, bien sûr. Il m'a appris l'exigence, voilà. Ça, ne rien céder aussi sur le projet. Par la suite, j'ai beaucoup aimé travailler avec des gens comme les Italiens, comme Rossellini, Pontecorvo.
Et ça, on en parlera dans un prochain entretien. Oui. Mais là, ça demandait combien de semaines, de mois de travail, un film comme Les Tricheurs ?
Oh, ça, il y a eu. On l'a tourné sur 3 mois, je crois. Il y a eu beaucoup de retard. Beaucoup de retard, oui. Mmh.
Mais alors, ça a donc été une démarche totalement différente que le théâtre. Comment vous l'étiez parfaitement préparé ?
Oui, c'est vrai, parce que la particularité irremplaçable du théâtre, c'est qu'il se présente comme une expérience collectivement vécue. Et grâce avant tout à la présence physique, réelle, des acteurs sur le plateau, qui fait que le public devient lui-même un collectif extrêmement vivant. Je dirais même une unicité plurielle, et pas une foule solitaire, comme par exemple au cinéma, justement. Il y a malentendu à mon sujet, on croit que je sous-estime le cinéma. C'est pas vrai. Si j'ai refusé beaucoup de choses au cinéma, si j'étais très exigeant avec le cinéma, c'est parce que justement je le respecte autant que le théâtre. Je trouve que c'est un art aussi majeur que le théâtre. Seulement, il a sa spécificité, et puis je suis davantage concerné, moi, par le théâtre avec la mise en scène, n'est-ce pas ? Je ne suis pas un metteur en scène de cinéma du tout. Mais c'est justement parce que j'estime le cinéma que je n'accepte pas de faire ce que je ne ferais pas, par exemple, au théâtre. Je me sens concerné par la mise en scène qu'à travers l'expérience du langage, je dirais même l'expérience sans cesse renouvelée du langage. Pour moi, faire du théâtre, c'est tendre un miroir au public qui reflète l'histoire de la vie des hommes, mais à travers l'expérience du langage. Encore une fois, l'expérience sans cesse renouvelée du langage, hein. Voilà, parce que c'est ça qui m'a poussé à la mise en scène de théâtre, c'est ça. Et aussi peut-être le fait que il n'y a, paraît-il, de concret dans la vie que le présent, et c'est justement par dérision. Le présent est insaisissable. Et c'est un des merveilleux paradoxes du théâtre de nous faire prendre conscience, de nous rendre ce présent saisissable, n'est-ce pas ? Parce que, comme disait Adamov, justement, le théâtre se présente comme un temps réinventé dans un espace transfiguré. Ce sont ses propres paroles. Et voilà. Le théâtre a un effet cathartique et sublimant. Il valorise et enrichit nos sentiments et nos pulsions dans la vie quotidienne grâce au langage. Il élargit notre perception et notre conscience des choses.
Et alors, les Tricheurs vous ont apporté un succès, une célébrité que vous n'aviez pas encore rencontrée par le théâtre, je suppose.
Oui, bien sûr. Oui, oui, oui.
Et alors, quel effet ça vous a procuré ?
C'est-à-dire qu'il y avait, au moment de la sortie des Tricheurs, une espèce de grande identification. C'est un film qui a beaucoup marqué toute une génération. Il y avait une très grande identification au personnage. À l'époque, c'était rare qu'on fasse des films avec des acteurs qui ne sont pas forcément des vedettes, n'est-ce pas ? C'était le grand coup de culot de Carnet, c'est d'avoir fait un film avec un budget assez conséquent, quand même, mais sans le support de vedettes. Alors, on était plus ou moins des visages inconnus pour le gros public. Et il y avait une identification très grande, surtout de mon personnage, n'est-ce pas ? Alors, évidemment, ça m'avait un peu traqué au début d'être toujours pris pour ce personnage, n'est-ce pas ? Voilà, par exemple, un exemple entre mille, j'achetais un journal et je voyais des jeunes qui rigolaient. Alors, un peu furieux, je m'approchais d'eux, pourquoi riez-vous ? Parce que vous achetez un journal et dans le film, n'est-ce pas, vous crachez sur les journaux. Alors...
ouais. Vous avez remarqué, Laurent, on lui parle de cinéma. Et quelque part, il répond théâtre. Ouais, le théâtre, ça a été sa vie. Il a choisi de monter ses pièces, souvent dans des petits théâtres, souvent au Lucernaire, au théâtre de Lutèce quand il existait encore, et dans bien d'autres, on va dire petits lieux, en tout cas des petites salles où il y a au maximum, entre 300 et 500 spectateurs. Parce que, comme il le disait si bien dans ce qu'on vient d'entendre, le théâtre, c'est une chose très curieuse qui se passe entre les comédiens et les spectateurs. Il disait aussi, faire du théâtre, c'est se mettre à l'écoute du monde pour en être la caisse de résonance. Voilà, et quand j'ai rencontré Laurent pour de vrai, une vraie rencontre qui a duré plusieurs mois, c'était sur une pièce qui s'appelle Le Philanthrope. C'était dans la saison 80. J'étais régisseur général du spectacle pour la tournée, et j'ai donc côtoyé Laurent régulièrement, tous les jours, pendant quelques mois. Et puis après, nous nous sommes rencontrés épisodiquement chez lui, ou au hasard des rencontres. La dernière fois que je l'ai vu, c'est en Aveyron. Il avait répondu à une invitation de l'abbaye de Sylvanès pour faire une conférence spectacle. C'était en 2000, je crois. Et c'est la dernière fois que nous nous sommes vus. Enfin, toujours est-il que cette tournée du Philanthrope, j'ai découvert un Laurent Terzieff et c'est là que nous sommes devenus amis. Quelques petites anecdotes. Laurent était un homme très très curieux. Si vous l'aviez croisé dans la rue avec son vieux pardessus râpé et son cabas, toujours un cabas noir à la main. Et dans ce cabas, ses livres, parce que c'est quelqu'un qui passe sa vie à lire. Aussitôt qu'il se pose quelque part, il sort un livre, il la note. C'est souvent un livre de poésie. Et puis aussi quelques petites bières, parce qu'il aime bien boire un coup de temps en temps, et des boîtes d'olives. Alors pourquoi des boîtes d'olives, me direz-vous? Eh bien parce que Laurent Terzieff ne mangeait rien en public à part des olives. Oui, oui, il se nourrissait à part, dans sa loge ou dans sa chambre d'hôtel, mais en public, et pourtant il venait régulièrement au restaurant avec le reste de la troupe. Mais là, il demandait s'il y avait des olives vertes, uniquement vertes d'ailleurs, et s'il n'y en avait pas, il sortait sa boîte d'olives et il mangeait ses olives, voilà. J'ai passé quelques... des soirées entières en face de Laurent qui mangeait ses olives et buvait son coup de rouge en train de discuter. Une autre anecdote comme ça qui est assez drôle... Mais n'allez pas croire que Laurent était alcoolique, parce que... Mais c'est qu'il y avait un changement rapide, et la scène finissait, c'était un début de repas, il y avait un noir, et quand ça recommençait, un noir qui durait 30-40 secondes, et ce qu'on appelle un noir, hein, c'est le noir sur scène, on éteint la lumière, et puis il y a des bouleversements dans le décor. Et là, quand on recommençait, donc c'était la fin du repas, donc sur cette table qui était dressée à la fin de la scène précédente, se retrouvait avec des épluchures dans les assiettes, et puis la bouteille de vin était aux trois quarts vide. Et c'est Laurent qui se chargeait de vider la bouteille. Autre anecdote de spectacle, vous savez, dans les théâtres, on évite de, quand on est en tournée, on évite de laisser traîner son portefeuille. Donc Laurent, avant d'entrer en scène, me confiait sa pipe et son portefeuille tous les soirs avant d'entrer en scène. Et Laurent, qui était un grand monsieur, qui était déjà pas en très très bonne santé à l'époque, se tenait assez courbé. Et chose fabuleuse, courbé en coulisses, il faisait un pas, et aussitôt qu'il rentrait en scène, il rajeunissait de 20 ans. Et Laurent, c'était, il en a parlé dans ce qu'il disait avant, l'importance pour lui de la poésie. Eh bien, écoutez-le dire un poème de Rilke.
À présent que j'apprends à voir, j'ai 28 ans, et il m'est pour ainsi dire rien arrivé. Reprenons, j'ai écrit une étude sur Carpaccio, qui est mauvaise. Un drame intitulé Mariage, qui veut démontrer une thèse fausse par des moyens équivoques. Et des vers. Oui, mais des vers signifient si peu de choses quand on les a écrits jeunes. On devrait attendre et butiner toute une vie durant, si possible une longue vie durant. Et puis enfin, très tard, peut-être saurait-on écrire les 10 lignes qui seraient bonnes. Car les vers ne sont pas, comme certains croient, des sentiments. On les a toujours assez tôt. Ce sont des expériences. Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à ses parents qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'il vous apportait une joie et qu'on ne la comprenait pas. C'était une joie faite pour un autre. À des maladies d'enfance qui commençaient si singulièrement par tant de profondes et graves transformations. À des jours passés dans des chambres calmes et contenues. À des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers. À des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d'amour, dont aucune ne ressemblait à l'autre. De cris de femmes hurlant mal d'enfants, et de légères, de blanches, de dormantes accouchées qui se refermaient il faut encore avoir été auprès de mourants. Être resté assis auprès de morts dans la chambre, avec la fenêtre ouverte, et les bruits qui venaient par à coup. Et il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs. Il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux. Et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas encore cela. Ce n'est que lorsqu'ils deviennent en nous sang, regard, geste, lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous. Ce n'est qu'alors qu'il peut arriver qu'en une heure très rare, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un vers.
Ah, ben voilà, dire de la poésie, si c'est ça. Oui, je crois que tout le monde peut aimer la poésie quand on l'entend dire par Laurent. D'ailleurs, il a monté de nombreux spectacles de poésie. Je me souviens, entre autres, dans les années 83, je crois, ou 84, il avait monté un spectacle sur les poésies de Milhaud. C'était un spectacle très dénudé, il n'y avait pas de décor. Il y avait juste 5 comédiens, si je me souviens bien. Il y avait Laurent, il y avait Pascal de Boisson, sa compagne, il y avait Philippe Lodenbach. La compagne de Philippe Lodenbach et Claude Aufort. Et c'était, les comédiens apparaissaient juste dans un rond de lumière qui cernait leur visage. Et les poésies étaient dites comme ça, sans rien, sans mouvement, sans décor. Mais c'était un spectacle d'une beauté et d'une émotion assez phénoménale. La poésie, il l'a montée au théâtre avec des poèmes, de Rilke, de Miloš, de Sandrart, de Pablo Neruda. Et puis, il a joué dans un certain nombre de textes classiques, mais dans ce cas-là, c'était pas lui qui mettait en scène. En fait, Laurent a fait 34 mises en scène. Et principalement, d'auteurs contemporains. Le seul auteur hyper connu qu'il a monté, c'est peut-être Pirandello. Sinon, c'était de joyeux inconnus pour nous, tels que Murray Sisgal. Il nous a fait découvrir aussi un grand auteur américain qui s'appelle Edward Albee, James Soders, Smorzek. Et un tas d'autres, mais il nous a surtout fait découvrir ce théâtre. Mais écoutez donc ce qu'il disait du théâtre contemporain.
Merci d'être avec nous, Laurent Terzieff.
Bonjour.
Vous avez monté beaucoup de spectacles d'auteurs américains. C'est vraiment très frappant quand on relit le travail de la compagnie Terzieff et les spectacles auxquels vous avez participé. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi. Qu'est-ce que vous allez trouver dans le théâtre américain ?
Eh bien... C'est une longue histoire. J'ai été confronté à mes débuts aux deux grands courants qui irriguaient la dramaturgie du théâtre après la guerre. Il y avait la critique politique et sociale avec Brecht, ses épigones, et puis le phénomène du théâtre de l'absurde, de la déréliction, de la cruauté, de la séparation avec Ionesco, Beckett, Adamoff, Jean Vautier, beaucoup d'autres. Donc, d'une part, une vision finalement constructive, positive.
Politique.
Politique, bien sûr, mais aussi optimiste, finalement, des choses, et une autre désespérée, désespérante, fascinée par le néant. Et la chose amusante, si vous voulez, c'est que ces deux formes, disons, opposées de théâtre étaient montées par les mêmes metteurs en scène. Oui. Je pense à Jean-Marie Serrault, à Roger Blin, Sylvain Dhomme, Jacques Mauclair, Marcel Cuvelier, tout ça, des gens avec qui j'ai débuté. Et moi, quand j'ai abordé la mise en scène, j'ai essayé de trouver... des auteurs qui expriment ces deux
ces deux phénomènes importants d'existence, c'est-à-dire tout simplement le monde intérieur et le monde extérieur, c'est-à-dire l'homme public et l'homme privé, l'homme jeté dans le monde, l'homme qui se bat, aime, travaille, communique, et l'homme intérieur, l'homme privé qui s'interroge avec, disons, ses rêves, ses angoisses, ses aspirations. Donc, finalement, le rêve et la réalité, le conscient et l'inconscient. Et ça, cette forme, si vous voulez, duale du théâtre, je l'ai trouvée chez les auteurs anglo-saxons.
Mais ça veut dire que, prenons les deux noms les plus célèbres que vous venez de citer, entre Brecht et Beckett, par exemple,
oui. Ou
Brecht et Ionesco, il fallait que vous alliez vers une sorte de troisième voie qui soit plus pleine de vie, finalement.
C'est tout simplement un théâtre qui interroge l'homme sur lui-même et la société dans laquelle il vit. C'est-à-dire que dans la critique politique et sociale de Brecht, il n'y a que l'historique, que le politique, et dans Adamov, il n'y a que l'homme intérieur. Donc j'essaie de joindre un peu ces deux aspects de l'homme.
Et ça, le théâtre américain le donne.
Là, je l'ai trouvé chez les auteurs anglo-saxons, pas seulement d'ailleurs, enfin, oui, anglo-saxons, Saunders, j'ai monté 5 pièces de James Saunders, de Harwood aussi dernièrement, Ronald Harwood, Temps contre temps. Et puis aussi certains auteurs de l'Est, comme Rojek. J'ai monté 5 pièces de Savoie-Humour Rojek.
C'est quand même... est-ce que vous en discutez avec, j'allais dire, vos amis, vos confrères metteurs en scène, avec ceux... Parce que c'est très particulier. On se dit, mais est-ce qu'il n'est intéressé que par ce théâtre? Et en fait, on sait bien que non. Mais votre réponse, c'est de dire, finalement, c'est là que je trouve... J'essaie de mettre des mots, un théâtre plein, en quelque sorte, voilà. en harmonie avec la vie.
Voilà, exactement.
Je vous disais,
c'est deux faces de l'existence, si vous voulez.
Bien sûr.
Le monde visible, le monde invisible, l'homme intérieur et l'homme qui se bat, qui dessine, si vous voulez, qui dessine une image. S'engager dans la vie, c'est tout homme qui s'engage dessine une certaine figure, tu vois. Et en dehors de cette figure, il n'y a rien. Si vous voulez, on ne peut pas dire que le terroir français soit suffisamment riche. On a plus de chances de trouver à l'étranger, mondialement, des auteurs qui répondent à ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est ça aussi. Vous savez, quand on monte une pièce, on cherche toujours à trouver l'équivalent d'un chef-d'œuvre absolu. Mais enfin, si on analyse bien le 17e, il y a Corneille, Racine, Molière, bien sûr, et puis voilà, qui va monter une pièce de Rotrou, pourtant qui a écrit des centaines de pièces et qui a été beaucoup joué à l'époque. Dans le 18e, vous avez Beaumarchais, Marivaux, etc. Bon, et rien d'autre.
C'est pas optimiste quand même ce que vous nous dites pour la création contemporaine, vous qui êtes un créateur contemporain.
Oui, mais moi je suis attaché uniquement au théâtre contemporain, pour différentes raisons. D'abord parce que c'est le théâtre, évidemment on peut toujours interroger notre époque par rapport au classique, mais je crois qu'il est, le goût de l'époque, comme disait Sartre, s'exprime dans le théâtre d'ici et maintenant, écrit maintenant, ça j'en suis persuadé.
Et oui, c'était un explorateur en fait du théâtre, Laurent. Il a donné, c'était sa raison de vivre, tout simplement. C'est vrai que je vous racontais tout à l'heure que quand on le voyait avec son pardessus râpé et son cabas, c'est tout juste si on lui aurait pas donné 10 francs, quoi. Il ressemblait à rien. Puis vous remarquez comment il répond aux questions qu'on lui pose. C'est pas quelqu'un qui répond d'une manière sûre et arrogante en se prenant pour une vedette. Ouais, non, Laurent se prenait pas pour une vedette. Certes, c'était un intellectuel. Oui, on peut dire comme ça. Il vivait dans les livres, il vivait dans ses réflexions, et on pouvait avoir avec lui de longues conversations sur pas seulement le théâtre, sur tous les sujets, parce que tout ce qui concerne la vie l'intéressait, mais il étudiait ça, en humain, tout simplement. Et même au théâtre, même quand on lui parlait de théâtre, et pourtant, Dieu sait s'il aurait pu se prendre pour une vedette, Dieu sait si... pour certains d'entre nous, les gens de théâtre, ça a été une idole, un grand personnage, un maître. Il faut quand même pas oublier qu'il a eu 4 Molières et je sais pas combien de nominations en tout. Oui, c'était un personnage à part dans le monde du théâtre qu'aurait pu choisir le vedettariat, mais qui préférait jouer dans des petites salles, monter des spectacles avec sa maigre compagnie, avec, contrairement à ce qu'on croit, de très maigres subventions par rapport à certains de nos petits théâtres de province. Et voilà. Et voilà, on lui disait, vous êtes un être à part qui monte du théâtre contemporain, des auteurs étrangers. Mais il avait aussi son avis sur le théâtre classique. Mais écoutons-le en parler.
Mais je ne me sens pas concerné par, si vous voulez, un travail, disons, référentiel. Voilà. Et puis ce qui m'intéresse, moi, dans le théâtre, c'est qu'il soit le reflet de la vie des hommes et le reflet de maintenant. Évidemment, bien sûr, je sais qu'on peut très bien interroger notre époque par classique interposé. Mais encore une fois, je ne suis pas sensible à la lecture nouvelle des classiques, surtout quand c'est issu de la dialectique brechtienne ou quand c'est revisité par des dramaturges ou des professeurs. Je pense qu'il y a dans ce travail des classiques un aspect référentiel qui m'a toujours un petit peu choqué, enfin, qui tient un peu du clin d'œil dans la mesure où il installe tout de suite une complicité intellectuelle entre le public et le spectacle, entre l'acteur et le public. Et voilà, voilà, voilà ma proposition du personnage, n'est-ce pas ? Bon, évidemment, ce qui me heurte dans les classiques, c'est que très souvent ça repose sur un caractère, n'est-ce pas ? Et pour moi, ce que je cherche au théâtre, c'est avant tout un univers et pas un caractère. Un univers multiple, une pluralité de sens, n'est-ce pas ? Évidemment, vous me direz que le misanthrope comme caractère, c'est pas mal. Mais justement, derrière le misanthrope, il y a une espèce d'universalité, justement, de thème qui fait que ça dépasse le caractère. Il m'est arrivé de jouer des personnages de caractère, comme le philanthrope de Christopher Hampton, par exemple. Roger Blin, justement, me demandait pourquoi j'avais joué ce personnage, parce qu'il trouvait que c'était un peu du boulevard revigoré par l'avant-garde. Enfin, bon. Moi, je sais pourquoi je l'avais joué. J'avais joué parce que c'est un personnage de retrait, et que d'habitude, j'étais plutôt la locomotive dans les spectacles. Je montais en tant qu'acteur, n'est-ce pas ? Et là, je voulais prouver que j'étais capable de jouer un personnage en retrait. Ouais.
Et oui, ben, ce personnage en retrait, c'est justement celui qui jouait dans le philanthrope. Et alors, Laurent n'avait pas une réputation de grand rigolo. Hein. C'est vrai qu'on l'a rarement vu dans un film comique. Pourtant, il a joué avec un grand acteur comique. Il a joué avec Bourvil dans Les culottes rouges, entre autres. Mais il n'avait pas la réputation, Laurent, d'être un grand rigolo. Et pourtant, dans la vie, il aimait rire. Souvent, à la fin d'un repas un peu arrosé, il se livrait à un exercice très très curieux. À savoir relever sa chemise et faire tourner son estomac. C'était très curieux à voir. Vous voyez son estomac qui se mettait à gonfler sa peau et il faisait tourner son estomac dans son abdomen. C'était curieux, mais lui, ça le faisait rire. Et non, on a beaucoup ri avec Laurent. Bah, d'ailleurs, écoutez-le parler du rire.
Le théâtre, c'est toujours cette extrême tension entre le, comment dirais-je, entre l'éblouissement et la joie devant le miracle que constitue l'existence, et en même temps l'anathème jeté sur un monde de cruauté, de barbarie, de souffrance, un monde voué à l'échec et au scandale de la mort. Mais ça c'est induit dans tout. Je sais bien qu'en France, on a un théâtre qui est ou tragique ou comique, mais justement, ça c'est peut-être une chose que j'aime beaucoup chez les anglo-saxons, c'est ça, cette chose héritée de Shakespeare, n'est-ce pas, qu'on rit, on pleure, comme dans la vie.
Cette coexistence de tous ces sentiments.
De l'émotion et du rire de libération, finalement.
Et oui, un rire de libération. Et alors le théâtre, bah oui, il y a l'acteur, mais il y a surtout ce qui fait exister l'acteur, c'est-à-dire le public. Il n'y a pas d'acteur sans public. Et qu'est-ce qu'il en pensait du public, Laurent ?
Plus profondément, le théâtre, c'est une expérience collectivement vécue. Et c'est la grande... La qualité irremplaçable, la spécificité irremplaçable du théâtre, c'est ça. C'est d'être avant tout une expérience collectivement vécue. Grâce à la présence physique réelle des acteurs sur le plateau, qui fait que le public va se sentir lui-même collectif extrêmement vivant et non pas une foule solitaire comme au cinéma. Et cela entraîne de la part du public un consensus non seulement sur la valeur, mais sur le sens de la pièce. Quels que soient les a priori que le public avait avant d'entrer dans la salle sur le spectacle qu'il va voir, il va se sentir presque obligé malgré lui à donner un sens, non seulement un sens au spectacle. Et ce sens va évoluer d'un soir sur l'autre, d'un public sur l'autre, parce que nous-mêmes, acteurs, nous ne sommes pas les mêmes d'un soir sur l'autre, et le public n'est pas le même, évidemment.
Et puis nous, pendant le spectacle même, on projette des choses. Voilà. On discute avec notre propre vie.
Voilà, il y a quelque chose qui part du plateau, qui tourne, qui ne revient pas tout de suite, d'ailleurs, qui fait des ronds dans la salle, vous savez, et puis qui nous revient sur le plateau et qui nous modifie à notre tour.
Comment vous le savez, ça ?
C'est par la sensation. C'est par la sensation, une qualité de silence. Pas seulement les réactions sonores, vous savez. Non, ce sont des ondes, oui.
Eh bien, voilà, c'est un peu court. Mais ce que j'éprouve pour Laurent est assez incommunicable, en quelque sorte. C'est vrai que ça a été pour moi un modèle, plus qu'un modèle d'ailleurs, ça a été, oui, un maître. Si j'ai travaillé comme j'ai travaillé, ça a été peut-être pour lui arriver à la cheville. Et déjà, lui arriver à la cheville, c'est une sacrée hauteur. Ça a été... Ouais, j'ai pas d'autre expression. Pour moi, ça a été un modèle. Et puis, en plus, j'ai eu la chance, la grande chance, que ça devienne un ami.
J'ai essayé à 100 reprises de vous parler de mon ami. Mais comment parler d'une église dont l'accès vous est interdit? Mais ce soir, je sens sous ma plume un fourmillement familier. Quand le soleil du cœur s'allume, l'éteindre serait un péché. C'est mon ami et c'est mon maître. C'est mon maître et c'est mon ami. Dès que je l'ai vu apparaître, j'ai tout de suite su que c'était lui. Lui qui allait m'apprendre à être ce que modestement je suis. Comme une chèvre vendéenne de ses secrets, il est jaloux. Et même s'il a de la peine, il ne vous parle que de vous. conserve de son bel âge un sourire au fond de ses yeux. Et je me dis que c'est dommage de vous le décrire sans cheveux. C'est mon ami et c'est mon maître. Je le vous vois encore aujourd'hui. Et quand j'ai mal dedans mon être, je passe une heure ou deux chez lui. L'air qu'on respire à sa fenêtre, c'est l'air le plus pur de Paris. Il porte en lui dur comme une arme, un orgueil au-delà de tout. Au point que même au bord des larmes, il vous fera croire qu'il s'en fout. C'est lui qui a fortifié mon âme. Et si je suis encore en vie, je ne le dois pas à cette femme qui me rend heureux aujourd'hui, mais à mon ami, à mon maître. Et dans la chanson que voici, je sais qu'il va se reconnaître. Mais puisque nous sommes entre amis, ce soir, je peux bien me permettre de vous le présenter aussi.